السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة عظيمة، وأعظم هذه النعم أن هدانا إلى هذا الدين العظيم الذي أكمله لنا وأتم به علينا النعمة. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de nombreux bienfaits qui sont, comme il le dit lui-même dans son noble livre, « La tuhsaha », ils sont indénombrables, on ne peut les énumérer. Et parmi les plus grands bienfaits, le fait qu'il nous ait guidés à cette religion et qu'il l'ait rendue parfaite, complète, elle traite tout ce dont nous avons besoin à la perfection. Et par cela, il a complété sur nous son bienfait. Il nous dit dans son noble livre, selon la traduction des sens du verset: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, agréé comme religion pour vous l'islam. Et parmi la plénitude et la perfection de cette religion, le fait qu'il ait honoré la femme musulmane, le fait qu'il l'ait élevé, honoré, choyé et préservé. Tout ce qui l'oriente vers le bien, la félicité, la réussite et la préservation lui a été ordonné, commandé et recommandé. Et tout ce qui la détériore, l'avilie, lui nuit et l'égare du droit chemin, l'entraîne dans sa perdition, lui a été proscrit, et contre cela on l'a averti. Ainsi, le plus grand bienfait pour lequel tu dois remercier Allah Azza wa Jal, chercher à le connaître, à connaître sa religion, son prophète envoyé sallallahu alayhi wa sallam, elle a guidé à l'islam. Et pour te rendre compte véritablement de l'honneur qu'Allah Azza wa Jal t'a fait en te guidant à cette religion, étudie et informe-toi de la situation de la femme avant l'islam, dans la jahiliya, avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le message de l'islam. Avant l'islam, comment est-ce que la femme était traitée, considérée, comment est-ce qu'elle vivait? Elle n'avait aucune considération. Elle était méprisée. Elle était méprisée. À la naissance, on l'attendait. Et certains creusaient un trou en avance. Ils détestaient les femmes et en avoir. L'un d'entre eux creusait un trou avant sa naissance. Si c'était un garçon, il se réjouissait, se félicitait et annonçait la bonne nouvelle. Et si c'était une fille, son visage s'assombrissait. Il était anéanti et il se trouvait dans un grand dilemme. Allait-il la garder avec humiliation ou l'enterrer? « وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ » Et lorsque la fille enterrée vivante sera interrogée, « Mais pour quel crime as-tu donc été enterrée ?» Allah nous dit également « وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Et lorsqu'on leur faisait l'annonce d'une fille, leur visage s'assombrissait, ils étaient anéantis. Ils se cachaient des gens, de par le malheur qui venait de lui être annoncé. Allait-il la garder avec avilissement, ou alors l'enterrer dans la terre? Subhanallah, c'était cela la situation. Et lorsqu'elle vivait, elle grandissait détestée, méprisée, avec aucune équité dans l'éducation des enfants d'avec leurs frères. Et lorsqu'elle grandissait encore, on la mariait sans qu'elle ait le moindre choix d'acceptation ou de refus. Elle n'avait pas plus de valeur que le bétail. Et si jamais son époux décédait, alors on héritait de la femme comme on héritait des biens de l'époux. Ainsi, il pouvait jouir d'elle, la vendre, la garder ou la mettre dans des dures difficultés ou la mettre dans des tâches difficiles et un labeur terrible. Elle n'avait aucune valeur, aucune considération, elle n'avait même pas le droit à l'héritage. Au contraire, d'elle, on héritait. Elle passait une période de viduité lorsqu'elle était veuve, d'une année complète, sans sortir, sans se laver. Et lorsqu'elle restait vivante, elle en sortait détruite et anéantie. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal a voulu faire se lever le soleil, honorer et anoblir cette femme et mettre fin à cette terreur qu'elle subissait, il a envoyé son noble prophète et messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam pour appeler les gens à adorer Allah seul d'un culte sincère. Il leur a dit « Qulou la ilaha illallah tuflihu ». Il les invita à la purification de la croyance. Dites « La ilaha illallah » et vous obtiendrez la réussite. Mais pas seulement. Après avoir établi ce fondement, il les a invités au noble caractère. Et parmi ce qu'il leur a dit « Inna allaha yanhaakum an wa'dil banat, an uquqil ummahat, wa wa'dil banat, wa man'in wahat ». Certes, Allah vous a interdit la désobéissance envers les mères. Vous a interdit d'enterrer les filles vivantes. Avec cela nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus étonnant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait un temps spécifique pour éduquer et enseigner aux femmes de la communauté. Il les considérait et il leur donnait du temps. Dans le hadith de Abdullah ibn Abbas rapporté par l'imam Al-Bukhari. Nous sortons, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. Le prophète صلى الله عليه وسلم est sorti, il a fait la prière, puis a fait la khutbah. Puis il s'est rendu auprès des femmes et les a exhortées, il leur a fait un rappel et leur a donné des commandements et leur a ordonné de faire l'aumône. Al-Hafid ibn Hajar nous dit parmi les leçons à tirer de ce hadith, le fait d'exhorter les femmes et de leur enseigner les règles religieuses relatives à l'islam et de leur faire le rappel et de les orienter vers ce qui leur incombe. Sa parole s'arrête ici, rahimahullahu ta'ala. ainsi d'exhorter les femmes et de leur spécifier un créneau fait partie des œuvres que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, une femme s'est rendue à leur lieu et a dit que les hommes ont pris toute part de la connaissance et des assises de science. Est-ce que tu pourrais nous donner un créneau pour nous exhorter, nous enseigner? Le prophète alayhi salatu wassalam a accepté et il est venu avec Bilal pour leur faire des recommandations. Le premier point par lequel nous allons commencer après cette introduction est de nous rappeler certaines règles qui sont comme des fondements pour la maison que vous souhaitez construire et élever. Sans ces fondements, il n'y aura pas de vision claire de la noblesse qu'Allah Azza wa Jal a accordée à la femme, aux musulmans de manière générale. La première règle est d'avoir la conviction ferme que les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des jugements parfaits, justes et d'excellence. Car c'est l'œuvre d'Allah, le Seigneur des mondes, le savant parfaitement informé, celui qui nous a créés. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. C'est celui qui nous a créés, il sait donc ce qui est le mieux pour nous. Allah nous dit dans sourate Al-Ma'ida, wa man ahsanu min Allah hukman li qawmin yuqinun. Et qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour un peuple qui a la certitude? Dans sourate At-Tin, alaysa Allah bi ahkamil hakimin. N'est-ce pas qu'Allah est le meilleur des juges? Et parmi les noms d'Allah, Al-Alim, Al-Hakim, le savant et le sage. La femme qui a la certitude en cela n'aura aucun doute quant au fait que son salut, sa réussite et son bonheur se trouvent dans l'acceptation des règles d'Allah Azza wa Jal, l'apprentissage et la mise en pratique de cela. Deuxièmement, la femme musulmane doit savoir avec certitude que sa noblesse, sa réussite et sa félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà est rattachée à sa connaissance et sa mise en pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus elle apprend sa religion et la met en pratique, plus elle est anoblie, élevée et heureuse dans ce bas monde avant l'au-delà. Avant l'au-delà. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Bienheureux sera celui qui l'a purifié. Personne qui a purifié son âme par l'apprentissage du tawhid, sa mise en pratique, le suivi de cette religion. Barakallahu fikum. La troisième base qu'on doit avoir toujours présent à l'esprit, c'est que tu saches que tu as des ennemis qui veulent attenter à ton bienfait le plus précieux, le plus prisé, ta religion. Ta religion est la chose la plus précieuse que tu possèdes, ta foi. Eh ben, sache que tu as des ennemis qui fournissent tous les efforts et dépensent tout ce qu'ils possèdent pour t'en défaire, pour te l'arracher, car ils ont su que s'ils réussissaient à te défaire de ta religion, tu serais une proie facile dans leur filet. Ils veulent sortir la femme musulmane de cette élévation, de cette noblesse, pour la tirer et la rattacher à la bassesse, au caractère vil et aux turpitudes, iyadhan billah. Ils ont compris que la femme musulmane représentait la moitié de la société et qu'elle mettait au monde l'autre moitié et l'éduquait. Ainsi, ils ont su que s'ils arrivaient à dévoyer et à égarer la femme musulmane, ils allaient égarer la société. Mais hayhat, hayhat, loin de la réussite, Allah Azza wa Jal est le meilleur des protecteurs, et il y aura toujours une partie de la communauté élevée par le tawhid et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et votre premier ennemi est al-shaytan al-rajim. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit dans le Coran, « Inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. Dans sourate Fatir, certes le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc comme tel. Il ne fait qu'appeler son parti à faire partie des habitants de la fournaise. Vous devez donc être sur vos gardes, vous prémunir et vous préserver de tout faux verbiage, de tout enjolivement, de toute bannière mensongère et de toute publicité délétère. Des gens se présentent à vous en vous disant « Venez, nous avons le remède à toutes vos peines. Venez, nous avons le remède pour le bonheur, pour ceci et pour cela. » En réalité, ils tentent de vous faire sortir du vrai bonheur. Du vrai bonheur, la foi et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le bonheur tout entier, la réussite dans sa totalité, réside dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici, pour ces bases établies, entrons maintenant dans notre sujet. La première recommandation qu'on s'adresse mutuellement est la recommandation d'Allah faite aux premières et aux dernières générations. La recommandation faite par le prophète alayhi salatu wassalam à ses nobles compagnons et à la communauté de manière générale. Allah vous dit dans son noble livre « وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ » Nous avons certes enjoint ainsi qu'à ceux qui vous ont précédé, la crainte d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit également, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ Et le vêtement de la piété, voici ce qu'il y a de meilleur. Il vous dit également, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ô vous qui avez cru craindre Allah d'une crainte véritable, et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Et avant de retourner vers votre Seigneur, de quitter ce bas monde, d'être ressuscité pour comparaître devant votre Maître et Seigneur, prenez vos provisions dans ce bas monde. Sachez que vous êtes dans un lieu de passage, et que l'ange de la mort viendra se saisir de votre âme, et qu'un jour vous serez ressuscité pour comparaître devant Allah et répondre de vos faits et gestes. Alors, prenez la recommandation d'Allah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Prenez donc vos provisions. Et certes, la meilleure des provisions est la piété. Les femmes, de tout temps, en tout lieu, de toute époque, se concurrencent dans les parures et la beauté. Sachez que la parure est de deux sortes. La parure intérieure, et la parure extérieure. La parure intérieure, c'est avec la purification de la croyance et la foi et la pratique de la religion. Et il y a aussi la beauté et la parure extérieure avec les vêtements et autres. Celles qui se préoccupent seulement de la parure extérieure ou plus encore l'extériorise et l'offre à tout charognard extérieur, à ses proches, elle anéantit en réalité sa beauté, elle anéantit en réalité sa noblesse, et elle détruit son bas monde ainsi que son au-delà. Alors que celle qui a fait de son but premier la parure intérieure, par la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de l'islam, la préservation de ses prières, de sa chasteté, son jeûne de Ramadan, la bienfaisance envers son époux et la bonne compagnie, et d'autres choses qu'Allah aime et agrée, celle-ci va s'occuper de purifier son intérieur, s'embellir, et ça ne va pas la distraire de prendre soin de sa personne de manière extérieure, tout en offrant cette beauté à qui revient de droit. Barakallahu fikum. C'est également la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, ittaqillah haythuma kunt. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Crains Allah où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera. et comporte-toi bien avec les gens. Crains Allah où que tu sois dans ton foyer, que tu sois résidente ou en voyage, que tu sois en présence des hommes de ta famille ou non, que tu sois une invitation chez les sœurs ou non, que tu sois dans un parc ou ailleurs, ou que tu aies la nécessité de sortir travailler, ou de faire des courses, ou toute autre activité. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Sais-tu ce qu'est la crainte d'Allah? La crainte d'Allah, c'est le fait de mettre un rempart entre toi et la colère d'Allah et son châtiment. Taqwa Allah, an taj'ala, ou an taj'ali wiqayatan baynaki wa bayna azabillah. Bifi'li al-ma'mour wa tarki al-mahdhur. La piété consiste à mettre un rempart entre toi et la punition d'Allah. Et cela s'établit en faisant ce qu'Allah nous a ordonné avec science en espérant la récompense et en délaissant ce qu'il nous a proscrit avec science en redoutant sa punition. Voici la première recommandation qu'on s'adresse mutuellement. Deuxièmement, sache, yani tahqiq al-tawhid. Deuxièmement, la concrétisation du tawhid. Tu n'es pas sans savoir que le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé que pour que tu l'adores. Il nous dit dans son livre, وَمَا خَلَقْتُ الْدِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les dînes et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il nous dit, يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ô vous qui avez, ô vous les gens, craignez Allah. Ou plutôt, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Il nous dit également, il nous enseigne également qu'il nous a créés pour qu'on le connaisse. Donc, efforce-toi d'apprendre ta religion en commençant par la purification de la croyance, l'apprentissage du tawhid, son amour, sa mise en pratique, et le fait de s'éloigner de tout ce qui pourrait l'entacher, le diminuer, ou l'anéantir, qu'Allah nous en préserve. La troisième recommandation, al-muhafazatu ala salawat al-khams bi awqatiha wa bil khushu' bi iqbal kamil ala rabbik tabaraka wa ta'ala. La troisième recommandation est de préserver la prière, de l'accomplir à l'heure, avec recueillement, sincérité et concentration. Rien ne doit te distraire de cette prière. 5 fois par jour, dirige-toi vers la Kaaba. Apprête-toi, purifie-toi et tiens-toi debout devant ton Seigneur avec dévotion et sache que cette prière, c'est le lien solide entre toi et ton Seigneur, sans intermédiaire, et que si tu la préserves, tu as un pacte avec Allah d'entrer au paradis. Wa aqimis salata li dhikri. Dans le Coran, et accomplis la prière afin de te souvenir de moi. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Préservez l'accomplissement de la prière ainsi que la prière médiane et tenez-vous devant Allah plein de dévotion. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam vous garantit par la préservation de cette prière le paradis. Et la meilleure prière de la femme, c'est celle qui accomplit chez elle. Mais elle peut bien évidemment se rendre à la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Et accomplissez la prière, et acquittez-vous de la zakat, et obéissez à Allah et à son messager. Dans sourate Al-Ahzab. Donc ça, c'est un point extrêmement important que de préserver cette salat. Barakallahu fikum. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Avec cette adoration, Allah Azza wa Jal vous préservera et vous purifiera. La recommandation faite aux épouses du prophète alayhi salatu wassalam vous concerne toutes. Allah ne veut que par cela éloigner de vous les impuretés et vous purifier. La recommandation suivante, al-muhafazatu ala al-hijab al-shar'i 'inda al-khuruj, le fait de préserver le voile agréé par Allah lors de vos sorties. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Ahzab, Ya ayyuha an-nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudunina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafuran rahima. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes chez les croyants de rabattre sur elles leur djilbab. De rabattre sur elles leur djilbab. Ainsi, on nous interdit at-tabarruj. On nous met en garde contre le fait de montrer ses atours aux hommes étrangers. Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Et ne vous exhibez pas la manière des femmes de la jahiliya ou des gens de la jahiliya. Barakallahu fikum. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la femme et l'a éloignée de tout ce qui pouvait entacher sa noblesse. Et si elle a un besoin de s'adresser aux hommes, de sortir ou autre, l'islam ne lui interdit pas cela, mais lui enjoint la crainte d'Allah dans toute situation. Il nous dit, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Et si vous avez une chose à leur demander, demandez-la leur derrière un voile. Cela est plus pur pour vos cœurs et pour le leur. Barakallahu fikum. Aussi, la femme doit s'éloigner de rechercher à troubler le sexe opposé, de rechercher à tenter les hommes et de chercher à être remarquée, de chercher de l'attention auprès d'hommes étrangers. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Et ne soyez pas complaisantes dans vos propos, sinon celui qui a une maladie au cœur vous convoitisera. Mais prononcez des paroles convenables. Prononcez des paroles convenables. La femme musulmane est préservée. Elle ne plaisante pas avec les hommes étrangers. Elle ne rit pas à leurs blagues. Elle ne leur ouvre pas, ni ne leur laisse présager de faux espoirs. Barakallahu fikum. Et lorsque la femme sort, le shaitan tente de l'utiliser pour tenter et pour égarer, même si elle n'a pas cette mauvaise intention et même si la maladie vient du cœur de l'homme en question, elle ne doit jamais se mettre dans une situation compromettante, douteuse, ou pire encore, tenter volontairement les hommes. L'islam nous est venu avec des règles pour l'ensemble des gens. Allah, le prophète sallam nous dit, An-nisa'u shaqa'iqur rijal. Les femmes sont les consœurs des hommes. Donc ce qui concerne les hommes, dans les ordres, les interdits, les informations, ça concerne les femmes. Cependant, Allah Azza wa Jal, par ajout de préservation pour la femme et de noblesse, il lui a légiféré certaines règles qui sont propres à elle, à sa nature, à ses besoins. Les règles religieuses, par exemple, propres aux menstrues, dans la prière, dans le jeûne, des règles religieuses propres au voile, des règles religieuses propres à la pudeur, des règles religieuses propres au foyer, au mariage, et ainsi de suite. Parce que la femme est un joyau en islam qui a une valeur inestimable. Ainsi, elle est choyée et préservée. dans d'autres communautés, dans d'autres civilisations, la chose la plus prisée chez eux, c'est l'argent. Alors, c'est cela qu'ils coffrent dans des coffres forts. Quant à la femme, chez eux, elle n'a guère de valeur. Alors, ils l'exposent sous le nom, sous des bannières fausses, naam, et ambiguës. Quant à la femme musulmane, elle accepte ce qui lui vient d'Allah et elle sait que tout son bien est dedans. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils n'auront pas jugé auprès de toi dans toutes leurs affaires, puis ne trouveront aucune gêne face à ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent pleinement. Un jour, un compagnon a rapporté un hadith. Abdullah al-Mas'ud radiallahu anhu dit que le prophète alayhi salatu wassalam a maudit celle qui se tatoue et celle qui applique des tatouages, celle qui s'épile les sourcils et celle qui se les fait épiler, et celle qui élargit l'espace qu'il y a entre ses dents, et celle qui altère la création d'Allah, comme la chirurgie esthétique par exemple. Cette parole est parvenue à une femme de la tribu de Banu Asad. On dit qu'elle s'appelle Ummu Ya'qub. Elle est surnommée Ummu Ya'qub. Et elle lisait le Coran. Alors elle est venue et a dit, un hadith qui m'est parvenu de toi, que tu maudis telle et telle et telle catégorie de femmes. Abdullah ibn Saoud a répondu, وَمَا لِي لَأَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Qu'aurais-je à ne pas maudire celle que le prophète sallam a maudit alors que c'est dans les livres d'Allah? Elle a répondu, j'ai lu le livre d'Allah, mais je n'ai pas trouvé ce que tu dis. Il lui a répondu, si tu as lu le livre d'Allah, tu as trouvé la parole d'Allah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que le message d'Allah vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Naam. Puis elle a dit qu'elle a reconnu et il lui a dit, tu peux alors partir avec cela. Naam. Barakallahu fikum. Donc ce qui vient de la part du prophète alayhi salatu wassalam est comme ce qui vient de la part d'Allah. On doit l'accepter et l'accomplir. Parmi les recommandations qu'on doit s'adresser mutuellement, التمسك بكتاب الله العظيم القرآن الكريم. Le fait de se cramponner, de s'accrocher au livre d'Allah, le Coran. Que ce soit sa lecture régulière, quotidienne, que ce soit sa méditation, que ce soit son apprentissage, que ce soit son application, que ce soit le fait de se soigner avec, de s'éduquer, d'éduquer nos proches avec, de juger avec et de revenir à cette base, à cette source dans toutes nos disputes et nos divergences. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, Ya ahl al-kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi wa yahdihi وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dans Sourate Al-Ma'idah, ô vous les gens du livre, vous est venu notre messager qui vous expose beaucoup de choses que vous cachiez du livre et il pardonne beaucoup. Vous est venu de la part d'Allah une lumière, c'est-à-dire le prophète Mohammed a.s. et un livre explicite, c'est-à-dire le Coran ou l'Azim. Par cela, Allah guide qui il veut. Ou plutôt, par cela, Allah guide ceux qui suivent le sentier de son agrément vers les chemins de la paix. Vers les chemins de la paix. Et il vous fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission. Et vous guide sur le chemin droit. Ainsi, avec le Coran, vous obtiendrez tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Barakallahu fikum. Parmi les recommandations aux femmes, le fait de ne pas convoiter ce qu'Allah Azza wa Jal à accorder spécifiquement aux hommes, tout comme l'homme ne doit pas convoiter ce qu'Allah a accordé spécifiquement aux femmes. Allah nous dit dans sourate An-Nisa, « وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. » Et ne convoitez pas ce qu'Allah a donné comme grâce à certains et pas à d'autres. Les hommes ont une part, les femmes ont une part. Et demandez à Allah de ses bienfaits. Allah Azza wa Jalla, sachez qu'Allah a accordé à chacun ce qui convenait à sa nature et à son besoin. Barakallahu fikum. Et en lisant le Coran, vous trouverez l'histoire de deux jeunes filles de Madian. L'histoire de cette fille qui par la suite est devenue l'épouse d'un des meilleurs prophètes et messagers, Moussa alayhi salam. Allah nous dit dans sourate Al-Qasas, ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. Jusqu'à la parole d'Allah Azza wa Jal, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Moussa alayhi salam arrive dans ce peuple de Médian. Il y a un point d'eau. Les bergers arrivent et abreuvent leurs bêtes. Et non loin de là, ils trouvent deux femmes en retrait. Et ils leur demandent pourquoi est-ce qu'elles n'abreuvent pas leurs bêtes comme les autres. Elles répondent qu'elles ont un père âgé pour dire qu'elles sont sorties pour un besoin. Elles étaient couvertes avec de la pudeur et elles ne voulaient pas se mélanger aux hommes dans cette action. Alors elles attendaient que eux partent, terminent, puis elles venaient pour abreuver leurs bêtes. Moussa alayhi salam a abreuvé leurs bêtes, puis il s'est éloigné. Par la suite, le père a entendu cette noblesse chez cet homme. Il a renvoyé ses filles afin de l'inviter. Barakallahu fikum. Omar ibn Khattab a fait les éloges de ces femmes-là, comme vous pourrez le trouver dans les tafasir. Tout cela pour vous dire que la noblesse de la femme à chaque époque a été à l'image du soleil en plein milieu de la journée. C'est une des plus belles choses, c'est une des plus nobles choses. Ne le renie que l'aveugle, insensible à toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il a invité l'homme à l'adoration, il a ordonné à la femme l'adoration. Inna al-muslimina wa al-muslimat. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Certes, les musulmans et musulmanes, les croyants et croyantes, les dévots et les mada, ceux qui sont réguliers dans l'adoration d'Allah, ou on va dire les obéissants et les obéissantes. Les très véridiques et les très véridiques. Parmi les hommes, parmi les femmes. Les endurants, les endurantes. Et ainsi de suite. Ceux et celles qui jeûnent. Ceux et celles qui préservent leur chasteté. Ceux et celles qui mentionnent Allah avec abondance. Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Et une énorme récompense. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante. Il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante. Comme vous voyez, la législation, la révélation, c'est pour les hommes, mais également pour les femmes. إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. N'appartient pas à un croyant ni à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'un ordre, de se trouver encore le choix dans leur façon d'agir. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et quiconque désobéit Allah et à son messager sera égaré d'un égarement évident. Donc voilà les orientations du Coran concernant la femme musulmane. Barakallahu fikum. Aussi, parmi les recommandations, le fait que la femme ne reste pas dans son foyer sans s'occuper dans le bien. Certes, si elle peut rester chez elle, et qu'elle ne se retrouve pas dans l'obligation de sortir pour s'occuper d'elle, de ses enfants, parce que, par exemple, elle est veuve, ou parce qu'elle a un besoin, ou autre, sans aucun doute, l'islam lui recommande de rester dans son foyer, et lorsqu'elle doit sortir, de se couvrir, et de ne pas s'exhiber à la manière des gens de la jahiliya. Allah nous dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Allah Azza wa Jal nous montre que lorsque la femme reste chez elle, elle gagne en quiétude, en sérénité et en noble caractère. Parce que celle qui sort et rentre sans nécessité, sans besoin et s'exhibe, est amenée à se mélanger avec les bons et les mauvais, avec les gens nobles et les gens vils, à avoir toute chose puérile, réprouvante, à voir maza, à entendre de mauvais discours et ainsi de suite, forcément ça va toucher son cœur, tout comme ça touche le cœur des hommes. Mais plus elle reste chez elle préservée, na'am, plus elle gagne. Cependant, beaucoup restent dans leur foyer, mais ne s'occupent pas dans le bien. Elles perdent leur temps devant la télé, devant les écrans, au téléphone, dans de mauvaises choses comme la médisance, le fait de rapporter qu'un tel a dit, qu'une telle a dit, et ainsi de suite. Na'am, à perdre le temps. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est pas cela qu'il a enjoint aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que beaucoup trouvent lourd le fait de rester dans leur foyer. Alors qu'Allah azza wa jal, lorsqu'il a enjoint à la femme son foyer, na'am, il l'a orienté vers des œuvres avec lesquelles elle allait s'occuper. Wa aqimna salat wa atina zakat, comme l'accomplissement de la prière, na'am, comme la lecture du Coran, na'am, comme la lecture du Coran, comme la lecture du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fikum, comme on le mentionnera. Aussi, Allah nous dit dans le Coran, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَاحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dans Sourate An-Nur, il dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté, et de nous montrer de leur parure que ce qui en paraît. Ici, Allah Azza wa Jal oriente la femme musulmane à baisser son regard. Tout comme Allah a ordonné à l'homme de baisser son regard face aux femmes étrangères et aux mauvaises choses, afin de ne pas être tenté, de ne pas souiller son cœur, car le regard est la porte du cœur, il a ordonné la même chose à la femme. Ainsi, la femme ne doit pas avoir de laxisme dans ce qu'elle regarde chez elle. Elle ne doit pas avoir de laxisme dans ce qu'elle regarde sur son téléphone, sur son ordinateur ou sur le net, avec qui elle parle et elle échange. Elle doit avoir de la rigueur et de la discipline dans cela. Et se rappeler que c'est un exemple qui éduque la génération à venir, les hommes de demain. Barakallahu fikum. Et qu'elle se rappelle le hadith de Ummu Humayda Sa'idiyya, lorsqu'elle est venue voir le prophète alayhi salatu wa salam et lui a dit, Inni uhibbu salata ma'ak, ya Rasulallah, j'aime accomplir la prière avec toi. C'est-à-dire venir prier avec toi, derrière toi, à la mosquée. Il lui a répondu, je sais assurément que tu aimes prier avec moi, mais la prière dans ta maison est meilleure pour toi que la prière dans ta cour. Et la prière dans ta cour est meilleure pour toi. Afwan. Wa salatuki fi baytika khayrun laki min salatiki fi hujratik. Wa salatuki fi hujratik khayrun min salatiki fi darik. وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ. Le prophète عليه الصلاة والسلام graduellement lui a montré que plus elle est préservée chez elle dans sa pièce particulière, plus sa prière sera méritoire et plus elle aura de la récompense. Na'am, la mosquée du prophète, mieux que cela, la mosquée de son quartier, mieux que cela dans sa maison, dans sa cour, mieux que cela dans sa maison à l'intérieur, mieux que cela dans sa chambre. Na'am. Ainsi, graduellement, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous montre cela comme c'est rapporté par Imam Ahmed, rahmatullahi alayhi. Il dit également خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. Le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier. Le moins bien est le dernier. Le meilleur des rangs pour les femmes, c'est le dernier. Et le moins bien est le premier. Comme le rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim. Comme le mentionne le prophète sallam dans Sahih Muslim. Pourquoi? Parce que plus elle est éloignée, na'am, de la vision des gens, bien qu'elle soit dans la meilleure des adorations, plus elle est préservée, plus elle est récompensée chez Allah subhanahu wa ta'ala, et plus, au plus elle est éloignée des insufflations du shaitan. Barakallahu fikou. Un jour, une femme a dit à Aïcha, après avoir fait le tawaf, na'am, j'ai fait le tawaf 7 tours, et à chaque tour j'ai pu toucher la pierre noire. Na'am. Et le coin yéménite. Ou plutôt la pierre noire, na'am. يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا وسلمت الركن مرتين أو ثلاثة. Elle a dit, elle a plutôt dit, oh la mère des croyants, j'ai fait le tawaf 7 tours et j'ai touché la pierre noire 2 ou 3 fois. Aïcha lui a dit, la ajarakilla, qu'Allah ne te rétribue pas. La ajarakilla, qu'Allah ne te rétribue pas. Tudafi'in al-rijal. Tu concurrences les hommes, tu pousses les hommes, tu te mélanges aux hommes. Ala kabbarti wa marrart. Pourquoi n'as-tu pas dit Allahu Akbar et passé tout droit? Na'am. Subhanallah. Elle dit cela dans le meilleur endroit au monde. Hein? À Mecca, dans l'endroit le plus aimé d'Allah. Buyutullah, les demeures d'Allah, à la mosquée, au Masjid Haram, dans la meilleure mosquée au monde. Et Aïcha la blâme. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'elle allait vers les hommes. Parce qu'elle est allée vers les hommes. Na'am. S'il en est ainsi à l'intérieur du Masjid Haram, que dire alors de l'extérieur? Lorsque la femme n'est pas gênée au vendeur de tendre sa main proche du vendeur, proche de la main de l'homme, et de frôler l'homme, et de bousculer peut-être l'homme, et d'élever sa voix à côté de l'homme. Ça, c'est à l'époque où il y avait les cœurs les plus purs, et les femmes les plus chastes. Na'am. Qu'aurait dit Aïcha radiallahu anha si elle avait vu ce qui se passe de nos jours? Wala hawla wala quwwata illa billah. Parmi les recommandations qu'on adresse aux femmes, l'endurance lors de l'épreuve. Ce bas monde n'est pas un paradis. Et les femmes sont sujettes aux difficultés. La femme musulmane est convoitée. On parle sur elle dans les médias, dans les réseaux. Hein, on ressasse son nom alors qu'elle n'a rien demandé. Elle vit en paix dans son foyer et dans ses activités. Mais on lui cherche des problèmes. On la calomnie. On tente de lui nuire et de lui faire dire ce dont elle est innocente. La femme musulmane doit se montrer endurante et se rappeler le hadith. Bada al-islamu ghariba, wa sa'i'udu ghariba, fatouba lil-ghuraba. L'islam a commencé étranger. Et redeviendra étranger. Bonne nouvelle aux étrangers. Qui sont les étrangers? Une minorité de personnes vertueuses et pieuses dans une majorité de personnes qui ne le sont pas. Donc, on leur annonce la bonne nouvelle. Wa fatouba lil-ghuraba. Bonne nouvelle. Au Ghuraba, un paradis vaste comme les cieux et la terre, puisse Allah Azza wa Jal vous joindre au nombre de ces femmes vertueuses. Et permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une femme endurante du temps du prophète alayhi salat wa salam. Et voyez comment est-ce qu'elle se comportait dans l'endurance. Est-ce qu'elle a abandonné son voile? Est-ce qu'elle a abandonné son dit? Est-ce qu'elle a dit je veux rentrer dans mon pays d'origine, j'abandonne ma hijra? Est-ce qu'elle s'est révoltée contre son époux? Comment est-ce qu'elle s'est comportée? Un jour, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Abbas a dit à Ata ibn Abi Rabih, qui était un ancien esclave noir, affranchi, qui était un grand savant de l'islam, très pieux. Abdullah ibn Abbas lui dit, vois-tu cette femme? Ben, c'est une femme parmi les femmes du paradis. Allahu Akbar. Elle marche sur la dunya. Abdullah ibn Abbas la montre à Ata ibn Abi Rabih et dit, tu vois cette femme? C'est une des femmes du paradis.
Atta ibn Abi Rabih s'étonne. Il dit, cette femme noire qui est là-bas, c'est une femme du paradis. Il lui dit oui. Et il lui raconte le hadith. Il lui raconte le hadith. Il lui dit, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, inni usra, j'ai des crises. Soit des crises d'épilepsie, soit des attaques de djinn. Donc elle avait des crises qu'elle ne contrôlait pas. Elle faisait des efforts et elle ne contrôlait pas. Wa inni atakashaf. Et lorsque j'ai ces crises, mon voile s'enlève quelque peu. Je me découvre un peu. Fad'ullah ali, invoque Allah en ma faveur. Écoutez la réponse du prophète alayhi salatu wa salam, le bien qu'il voulait pour les femmes. In shi'ti sabarti walakil janna. Wa in shi'ti da'awtu Allah an yu'afiyak. Il lui a dit, si tu le souhaites, j'invoquerai Allah en ta faveur, il te madha. Non, si tu le veux, tu patientes, tu endures et tu gagneras le paradis. Et si tu le souhaites, j'invoquerai Allah afin qu'il te guérisse. Elle a répondu, asbir. Wa inni atakashaf, fad'u Allah li an la atakashafa fada'a laha. Elle lui a dit, je choisis de l'endurance. Je choisis d'endurer. Cependant, je me dévoile. Peux-tu invoquer Allah afin que je ne me dévoile plus? Allahu Akbar. Son souci, c'était même plus la maladie. Son souci, c'était sa pudeur. Son souci, c'était sa préservation, sa noblesse. Son souci, c'était que jamais un homme étranger ne puisse voir de son corps. La hawla wa la quwwata illa billah. Quel est ce degré de foi? Certaines personnes, lorsqu'elles sont touchées par la maladie, au contraire, elles enlèvent le voile. Elles vont voir n'importe qui, elles cherchent des remèdes. Certaines même vont voir des marabouts, des fris, des sorciers et tout. A'oudou billah. Cherche des remèdes partout. Elle dit, mais je suis malade, mais kada, mais presque 5 à 4 forces majeures comme si elle allait mourir demain. Non. La femme musulmane a des priorités. La femme musulmane, sa priorité, c'est son dîn. Sa priorité, c'est son honneur. Avant même sa santé. Cette femme-là a dit, je choisis l'endurance. Cependant, je me découvre, invoque Allah, afin que je ne me découvre pas. Médite cette histoire. Médite la foi de cette femme, sa véracité, sa pureté. Et la place qu'avait sa religion dans sa vie. Et son souci primaire, c'était quoi? Son souci premier, c'était quoi? C'est sa pudeur. Oh, chère sœur, qui aime le hijab, aime les femmes en voile. Mais se dit, Inch'Allah, plus tard, je mettrai le voile et j'espère que mes enfants, et j'espère que mon Seigneur ne me tiendra pas rigueur. Qu'attends-tu pour ressembler à ces femmes qui ont posé déjà leurs pieds au paradis et leur âme les attend pour les rejoindre? Qu'attends-tu pour ressembler aux femmes du prophète alayhi salat wa salam et à ses filles Fatima, Zainab et autres? Qu'attends-tu pour prendre pour exemple les meilleures des femmes qui ont foulé le sol de ce monde? N'écoute pas les insufflations du shaitan, ne pense pas que ta dunya va disparaître. Au contraire, tu vas te rapprocher de ton Seigneur, au contraire, tu vas goûter aux délices et au bonheur, au contraire, tu vas soigner ton cœur. Qu'Allah Azza wa Jal raffermisse ton cœur sur cette vérité qu'il te guide à porter le hijab. Et demande à tes sœurs en Allah, et elles te diront toutes unanimement que lorsqu'elles ont porté le hijab, ce fut un renouveau, un début, comme une renaissance, et qu'elles regrettent, la seule chose regrettée, c'est de ne pas l'avoir porté plus tôt. Qu'Allah t'accorde la réussite. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Le vêtement de la piété, voici ce qu'il y a de meilleur. Donc la femme, elle doit se montrer forte et endurante lors de l'épreuve. Que soit l'épreuve de la pauvreté du mari, que soit l'épreuve de la famille qui n'accepte pas sa religiosité, que soit l'épreuve du fait qu'on coupe les liens de parenté, l'épreuve de la moquerie, on se moque d'elle, on se moque de son hijab, on dit que c'est une prisonnière, on se moque d'elle, on lui donne des sobriquets. Elle ne répond pas à ça, elle dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Ce bas monde, c'est un lieu de passage. Et le prophète sallam a dit, ad-dunya sidnul mu'min. Ce bas monde, c'est la prison du croyant. Et l'au-delà, c'est ça son vrai paradis. Parce qu'entrer dans l'au-delà n'aura plus d'obligation. Ici, c'est comme si elle se restreint, mais là-bas, il n'y aura plus de restrictions. Lahumma yasha'u. Wala mamnu'a. Nul interdit au paradis. Il faut patienter dans l'obéissance d'Allah. Il faut patienter face à la désobéissance d'Allah. Et il faut patienter lors du décret d'Allah difficile. Lors de la perte de l'enfant, elle dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Elle espère la récompense d'Allah, elle se montre forte et endurante. Lors de l'épreuve de la pauvreté, lors de l'épreuve de la maladie, lors de l'épreuve de la maladie de l'enfant, lors de l'épreuve
des écarts de comportement de l'époux ou bien de la mauvaise considération de sa religiosité, de ses parents, de ses frères. Elle endure, elle patiente. Elle endure, elle patiente parce que son but, elle, c'est pas ce bas monde. Son but, c'est le paradis. Craignez donc Allah Azza wa Jal et montrez-vous endurante qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Parmi les grandes recommandations, le fait de préserver les droits de l'époux. En premier lieu, d'étudier quelle est la valeur du mari. Deuxièmement, comment se comporter et s'adresser au mari. Troisièmement, quelle est la récompense que j'ai à gagner chez Allah si je m'acquitte de mes devoirs envers mon époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a honoré la femme, qu'elle soit une fille. Il a dit, celui à qui Allah Azza wa Jal donne 2 filles, ou 3, il les préserve, il les éduque, il leur enseigne, il dépense pour elles, il les supporte, jusqu'à ce qu'elles se marient, elles seront pour lui un voile contre le feu de l'enfer. Allahu Akbar. Allah les a honorées en tant que sœurs, en disant, celui qui dépense pour ses sœurs, Allah lui donne le paradis ou le préserve du feu de l'enfer. Troisièmement, Allah les a honorées en tant que mères. Il nous dit dans le Coran, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Et on a enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté peine sur peine. Et son sevrage a lieu. Et sa grossesse et son sevrage a lieu en 30 mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, que vous n'adorez que lui, ainsi que la bienfaisance envers les parents. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent un âge âgé auprès de toi, ne leur dis pas ouf, ne sois pas rude envers eux, mais prononce que des paroles convenables et abaisse l'aile de l'humilité pour eux. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, inna Allah yusikum bi ummatikum. Allah vous fait des recommandations envers vos mères. Le prophète salam a dit, la plus endroit à votre bonne compagnie, c'est votre mère, puis votre mère, puis votre mère, puis votre père. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla a vraiment élevé la place de la mère et a dit, fais tes efforts auprès d'elle. À ses pieds, tu trouves ton paradis. Ou auprès d'elle, tu trouves ton paradis. Barakallahu fikum. Et lorsqu'un homme a voulu faire la hijra, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, dans le recueil d'Abu Daoud ibn Majah, ses parents ont pleuré. Naam. Hassan lui a dit, irdi' ilayhima, wadhikhuma, kama bkaytahuma. Retourne auprès d'eux et fais-les rire, tout comme tu les as fait pleurer. Naam. Barakallahu fikum. Donc, et la femme a été honorée en tant que tante. Le prophète a dit, la tante maternelle à la place de la mère. En tant que personne âgée, le prophète a dit, n'est pas des nôtres celui qui n'honore pas la personne âgée. Et il a menacé du feu de l'enfer ceux qui désobéissent à leur mère, ceux qui désobéissent à leur père. Et en tant qu'épouse, Allah l'a honorée et lui a donné des droits. Et le prophète a dit, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, et comportez-vous avec elle selon le convenable. Et a dit aux hommes, اِسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, faites de bonnes recommandations aux femmes. Et il a dit, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِكُمْ وَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِ, le meilleur d'entre vous est le meilleur avec ses épouses et je suis le meilleur d'entre vous avec mes épouses. Et il a dit, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ, le meilleur d'entre vous est le meilleur dans son comportement. Ou plutôt, le croyant ayant la foi la plus complète est le meilleur d'entre vous en matière de comportement. Et le meilleur d'entre vous est le meilleur d'entre vous avec ses épouses. Tous ces hadiths nous montrent qu'Allah a honoré cette femme. Au pèlerinage d'adieu dans le plus grand rassemblement connu en islam, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Fattakullaha fin nisa, craignez Allah envers les femmes. Vous les avez prises avec la amana d'Allah. Vous avez rendu licite leur partie par la parole d'Allah, c'est-à-dire par le mariage.
Barakallahu fikum. Il a dit lors de dissensions et divergences, la yafruku mu'minu al-mu'mina, qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Lorsqu'il y a des dissensions dans le couple, l'homme se focalise sur les défauts, sur les manquements. Il dit à ça, à ça, à ça, il pense au divorce. Il veut échanger. Il pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Il ne connaît pas les autres défauts. Le prophète lui dit non, sois juste. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si elle lui déplaît d'un côté, elle lui plaira d'un autre. Ça veut dire sois juste, pèse tout le bien qu'elle fait depuis ton mariage. Et de l'autre côté, les négligences et les imperfections. Et à ce moment-là, tu peux juger, tu peux être juste. Barakallahu fikum. Mais si tu fais ce travail, dans 90% des cas, tu te remets en question. Et tu vois que tu as la même chose de ton côté. Et qu'il faut patienter les uns sur les autres. Et se faire des recommandations. Et passer ce couloir jusqu'à arriver au paradis. La femme a honoré, ou Allah Azza wa Jalla a honoré la femme, et il lui a donné une grande responsabilité, le fait d'honorer son époux. Le prophète alayhi salatu wa salam a montré la place de l'époux chez la femme, en disant, si j'avais ordonné à une personne de se prosterner devant une créature, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, tellement son droit sur elle est immense. Ça, c'est la considération qu'elle doit avoir. Et quoi qu'elle fasse, son époux mérite encore plus. La place de l'époux est comme si elle avait uni entre le père et la mère. Son droit est aussi grand que cela. Il dépense pour elle. Il travaille pour elle. Il se bat pour elle. Est-ce que ça veut dire qu'elle, elle ne doit pas participer? Si elle participe, elle travaille. Son travail est en continu. Elle gère son foyer. Elle préserve son époux. Elle doit le considérer. Quand il rentre dans son foyer, c'est pas comme un étranger qui est rentré ou une personne banale. Non, elle met ses activités entre parenthèses, elle vient l'accueillir à la porte. Elle l'accueille avec une bonne parole, avec une belle tenue, avec une belle présentation, avec une bonne odeur. Elle l'installe et elle se préoccupe de sa satisfaction avant même sa venue. Elle sait quand il va rentrer. Elle s'apprête pour lui. Elle fait ce qu'il aime, elle recherche sa satisfaction, elle le préserve. Elle cuisine pour lui en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Elle s'embellit pour lui. Pas à l'image de celle qui, lorsqu'elle est invitée chez une amie, elle se maquille, elle s'apprête, elle se prépare, elle met toute sa vie entre parenthèses, comme si c'était sa walima. Et lorsqu'elle rentre, ou lorsque l'époux rentre, il n'a même pas les restes de cette prestation. Est-ce que cette femme-là a été juste envers elle, juste envers son époux? L'époux n'est-il pas plus en droit à ces efforts-là? Barakallahu fikum. La femme doit écouter son époux et se mettre sous son époux afin d'avancer et acheminer vers l'agrément d'Allah Azza wa Jalla et la demeure de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَا ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ. Si la femme prie ses cinq prières, jeûne son mois, préserve sa chasteté, écoute son époux, il lui sera dit entre au paradis par la porte que tu souhaites, par l'une des huit portes du paradis que tu souhaites. Barakallahu fikum. Ça, c'est un point très important. Dans chaque société, dans chaque communauté, dans chaque foyer, il faut un pilote, il faut un décisionnaire. L'homme, il est bon qu'il consulte sa famille, qu'il échange avec eux. Mais à la fin, il y a une décision à prendre. Naam, la femme doit donner de la valeur à son époux. Elle doit lui dire, tu es l'homme et je suis la femme, et chacun à ses responsabilités. Ni lui ne doit chercher à prendre son rôle à elle, ni elle doit chercher à prendre son rôle à lui. Allah Azza wa Jalla a honoré cette femme de par la dot. Il ne peut pas toucher cette femme sans poser la dot, sans aller voir les hommes de sa famille, sans demander sa main. Barakallahu fikum. Parmi les recommandations, la femme doit faire attention à l'embellissement par le biais de l'interdiction, du haram et de la malédiction d'Allah Azza wa Jalla. Nous sommes à une époque où le terme de la beauté, l'essence de beauté, les produits de beauté, tous ces thèmes-là ont énormément d'importance dans une société où le paraître a pris le dessus sur la purification du cœur. La femme musulmane doit être sur ses gardes et étudier les règles relatives à l'embellissement, à savoir que tout lui est licite, sauf ce qui est interdit par un texte, à savoir qu'il y a un embellissement qui lui est permis chez elle, mais qui n'est pas permis à l'extérieur. Elle doit étudier cela. Barakallahu fikoum. Elle doit savoir la aura de la femme devant les étrangers. Elle doit savoir la aura de la femme devant les autres femmes. Certaines pensent qu'il n'y a pas d'aura devant une femme. Alors elle se change devant elle, elle fait ceci devant elle. Non, attention, la aura de la femme devant la femme et la aura de la femme devant les hommes de sa famille. Ce que tu montreras à ton père, à ton oncle, à ton frère, à ton neveu, c'est ce que tu peux montrer aux femmes. Le seul avec qui il n'y a pas d'aura, c'est ton époux. Le seul avec lequel il n'y a pas de aura, c'est ton époux. Tu peux porter ce que tu veux entre quatre murs, mais pas devant les autres femmes. Barakallahu fikou. Donc on fait attention à ce point-là. Et j'attire votre attention sur un phénomène sociétal qui est vraiment très dangereux et jadis se répandait, mais pas dans la communauté. Là, maintenant, il est même rentré dans la communauté. Il s'agit de la chirurgie esthétique. Allah Azza wa Jal vous a comblé de richesses et a enrichi la communauté. Elle est devenue plus riche, c'est un fait indéniable. Donc, beaucoup ont monté en rang social, en richesse, et ont obtenu des richesses. Au lieu de remercier Allah et de se montrer reconnaissant, qu'est-ce qu'elles se disent? Eh bien, je vais changer mon physique parce que j'ai tel complexe. Et très souvent, ça vient de quoi? Du fait qu'elles ne baissent pas le regard. Elles vont sur des sites, elles regardent des magazines, elles regardent des films, elles regardent des séries, elles regardent des publicités. Elles voient des femmes dénudées, avec une apparence qui, pour elles, c'est l'excellence et c'est la perfection. Elles ne savent pas que ces photos sont retouchées, elles ne savent pas que cette femme-là, avec cette description-là, n'existe même pas, comme les publicitaires l'avouent. Ce sont des photos qui sont retouchées et retapées, c'est pour ça que jamais ce physique, pratiquement jamais il ne sera vu. Mais ces gens-là sont trompés à la recherche d'un idéal, à la recherche d'un idéal, à la recherche d'un renouveau, à la recherche de l'attention des créatures. Pour cela, elles sont prêtes à désobéir au Créateur. Elles se disent, c'est qu'une fois, je vais le faire, mais subhanallah, Allah te voit, Allah t'entend. Que va penser de toi ton époux alors que tu as découvert ta aura devant un médecin? Naam. Elle découvre sa poitrine, elle découvre le bas, elle découvre autre chose. Elle expose cela au médecin, il va la regarder, elle est sous anesthésie, Allahu alam, ce qu'il peut voir et faire d'elle. Et ensuite elle revient, elle pense qu'elle continue sa vie, que personne ne l'a su, personne ne l'a vu. Les anges ont été présents, ils ont tout noté. Ton Seigneur au-dessus de cette chose, au-dessus du trône, a vu, a surveillé, tout a été consigné. Et tu vas revenir vers Allah et pour cela tu seras jugé. Tout cela pour ressembler à qui? Pour avoir la place dans le cœur de ton époux? Regarde la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et étudie-la. Il a aimé Khadija. Est-ce que Khadija s'est rapproché de cela? Jamais. Il a aimé Aïcha. Est-ce que Aïcha s'est rapproché même de loin de cela? Jamais. Elle en a senti l'odeur. Vous voulez être aimé de vos époux? Prenez pour exemple Khadija, Fatima, Aïcha et autres. Ali ibn Abi Talib a aimé énormément Fatima. Le prophète sallam a aimé énormément Aïcha. Et ainsi de suite. Et lorsqu'on regarde leur biographie, c'était quoi? Le fait de s'occuper de la purification intérieure, puis extérieure. Puis le fait de s'embellir pour l'époux. Et de chercher son agrément. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les meilleures des femmes sont El Waloud, El Aoud, celles qui, donc les meilleures des femmes, ce sont qui? Les femmes affectueuses, c'est-à-dire elles cherchent à se faire aimer de son époux par son bon comportement, par son embellissement. El Waloud, elle a une baraka dans le mariage, elle enfante facilement. El Aoud, Elle n'est pas orgueilleuse. Dès qu'il y a un différend avec son époux, elle revient vers son époux, elle s'excuse. Elle polémique pas. Elle regarde pas, c'est elle qui a raison, c'est lui qui a tort. Non. Elle revient vers lui, elle cherche la paix. C'est une femme qui met la paix dans le foyer. C'est une femme qui éteint l'incendie. C'est pas une pyromane. Il y a une étincelle, elle jette l'huile sur le feu. Non. Certaines, on dirait, elles ne vivent qu'à travers les fitaines, à travers les cris, à travers. Ça, c'était avant. Maintenant, il y a les insultes. Maintenant, il y a les gestes. A'oudhou billah, certaines même se permettent d'insulter l'homme et dit, qu'est-ce que tu vas faire? Allahu Akbar. Un homme ne lui dit pas ça face à face. Et elle a le culot de faire cela. Les pieux prédécesseurs disaient, quatre femmes, il ne faut jamais les épouser. Parmi elles, elles salfa'a. La femme salfa'a, celle qui a du culot. Celle qui est omas. Celle qui se prend pour un homme quand elle parle avec les hommes, on dirait que c'est un homme parmi elles, parmi eux. Elle parle avec ses mains, elle crie sur les hommes, elle se comporte mal. Celle-ci, il ne faut jamais l'approcher. Barakallahu fikum. Quel que soit son physique. Quel que soit son physique. Barakallahu fikum. Donc, éloignez-vous de cela. Ne suivez pas ceux qui font ça. Même dans les quartiers, c'est rentré. Hein? Certaines voyages dans tel ou tel pays font la chirurgie esthétique, elles reviennent parce que c'est moins cher. Quel pauvre homme, celui qui ose dépenser pour cela. Quel dayous! Où est la jalousie pour la femme? Où est la masculinité de celui qui ose laisser faire cela? Sans parler, sans conseiller, sans exhorter. Barakallahu fikum. Conseillez vos sœurs. Conseillez vos sœurs et avertissez-les. Craignez Allah et éloignez-vous de toutes les causes qui mènent en enfer. Et une des plus grandes causes, la colère du mari. Et l'ingratitude envers l'époux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme c'est dans Bukhari Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri. Après Eid, après la prière du Eid, a dit aux femmes, Yama Asharan Nisa, Tasaddaqna, fa inni raytukunna akthara ahli an-nar, fa qulna bima ya Rasulallah, ala tukthirna al-la'n, wa takfurna al-ashir. Oh, vous les femmes, faites des aumônes. C'est-à-dire, prémunissez-vous du feu de l'enfer en faisant du khayr. Car je vous ai vu la plupart des habitantes de l'enfer. Pourquoi au messager d'Allah? Ça, c'est la peur d'Allah qui a amené cette question. Pas comme maintenant. Elle est exhortée. Qala Allah, qala Rasulallah. Oui, mais vous toujours. Oui, mais ça, je le sais. Oui, mais. A'ouzou billah. C'est comme ça que tu réponds à la parole d'Allah, à la parole du messager. Isam'an wa ta'a. Astaghfirullah. Repends-toi. Dis, je vais m'améliorer. Aide-moi à m'améliorer. C'est ça qu'il faut répondre. Au lieu d'être orgueilleuse. Au lieu de polémiquer sur le faux et de chercher des échappatoires. Il y a des échappatoires dans ce bas monde. Il n'y aura pas d'échappatoire après être passé dans le couloir de la tombe. Il n'y aura pas d'échappatoire. Il n'y aura pas de regret possible en se rappelant de tout ce qui a été fait et tout ce qui est en mémoire. Non. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pourquoi au messager d'Allah? Car vous maudissez beaucoup. Ça, c'est les péchés de la langue. Et vous êtes ingrate envers les époux. Ça, c'est l'ingratitude. Attention, surveillez vos langues et craignez Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que tu as gagné à t'asseoir, faire de la médisance et parler sur les gens et parler sur les sœurs et parler sur l'enseignante et parler sur les savants et parler sur les gouverneurs et parler pire. Yani, subhanallah, certains même, elles se réveillent dans le foyer de l'époux. Elles dorment dans les lieux de l'époux. Elles mangent avec la substance que ramène l'époux. Et ensuite, elles mangent la chair de son propre époux. Quel bien y a-t-il dans cette femme? Quel baraka y a-t-il dans cette femme? Peut-être même devant les enfants de l'époux. A'ouzou billah. Quel baraka y a-t-il dans cette femme? Est-ce que c'est ces enfants-là qui vont sortir les imams de demain? Les hommes de demain? Alors qu'elle les a perturbés, ils vont grandir avec des troubles, masakin. Ils vont grandir, ils vont même plus savoir c'est quoi la place de l'homme, c'est quoi la place de la femme. Quand ils vont se marier, peut-être ils vont mal se comporter envers leur époux, épouse, à cause de toi. Qui a eu un mauvais comportement et qui n'a pas fait preuve d'exemplarité dans ta langue, ni dans la reconnaissance envers l'époux. Les enfants qui grandissent le plus équilibrés sont ceux qui ont une mère qui connaissent les droits d'Allah, puis les droits de l'époux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Attention aux défauts de la langue. Attention à l'ingratitude envers l'époux. c'est une cause pour entrer en enfer. C'est une cause pour entrer en enfer. Non. Aussi, dans un hadith, dans Sunan Kubra de Nasa'i, Amr ibn al-As était au Hajj ou à la Umra. Il a vu une femme dans son, j'oublie comment est-ce qu'on appelle ça, je sais pas si c'est pas palanquin ou, yani ce dans quoi les femmes montaient à l'époque, elles étaient portées, na'am, lors du voyage. Et il a vu un bras qui a dépassé, vous voyez par la fenêtre, par l'ouverture, et elle avait des bracelets. Elle avait des bracelets, elle montrait sa parure. Et il a mentionné qu'au temps du prophète alayhi salat wa salam, le prophète alayhi salat wa salam a dit « La tchulul jannata minan nisa illa taqadri hada al-ghura ma'ahdi al-ghirban » Un jour, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi salam, il a vu des corbeaux. Et peu parmi les corbeaux ont une trace blanche en plus du noir. Vous comprenez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt, il y avait beaucoup de corbeaux. Comme vous le savez, ils sont noirs entièrement. Et il a vu des corbeaux qui étaient bruns à certaines parties aux jambes, yani aux pattes et ailleurs. Je ne me souviens plus de la traduction exacte. Puis il leur a dit aux compagnons, n'entrera pas au paradis si ce n'est la mesure du nombre de ce genre de corbeaux par rapport à la majorité des corbeaux. C'est-à-dire les corbeaux noirs, c'est la grande majorité. Et ceux qui ont des taches brunes aux pattes et autres et ailleurs, eh bien ils sont minoritaires. Tout cela pour dire que la plupart des femmes rentrent en enfer. Pourquoi ? Parce que elles surveillent pas leur langue, elles retiennent pas leur langue, elles ne contrôlent pas leur langue, hein, leurs émotions et autres. Et deuxièmement, l'ingratitude envers le mari. Elles ne sont pas comme Allah veut d'elles avec leurs épouses. Donc remettez-vous en question. Celle qui a désobéi à son épouse, celle dont le mari est en colère, immédiatement elle le contacte, elle demande pardon. Elle cherche la paix. Elle se remet en question. Elle revoit ses bases. Elle revient à lui, elle met sa main dans sa main. Prophète a dit aux femmes parmi les femmes du paradis, à la fin il a dit celle qui revient, qu'elle ait tort ou qu'elle ait raison, elle revient, elle met dans sa main dans la main de l'époux et elle dit je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait de moi. Une nuit elle n'arrive pas à la laisser passer tellement elle a peur d'Allah. Et aujourd'hui trouve la femme, une nuit, une semaine, c'est même plus l'homme qui parle plus à la femme, c'est la femme qui fait le hajj au mari. Hein? Elle lui parle plus, ensuite elle prend le téléphone, elle éclate de rire avec ses copines pour montrer qu'elle s'en fiche, en vrai elle souffre à l'intérieur. Elle souffre, mais elle veut lui faire mal. Elle veut se venger parce que la haine habite son cœur. Comme elle n'est pas avec le Coran la journée, comme elle n'est pas avec la taqwa, qu'est-ce qui habite son cœur? C'est les défauts, c'est les souillures, la haine, la rancœur et ainsi de suite. Hein? Les bassesses juveniles, des jeunes filles. Mais là, t'es une femme, t'es une mère de famille, subhanallah. Et tu te comportes comme une enfant. Allah Azza wa Jal, sois adulte, mets la paix dans ton foyer. Reviens vers l'époux. Et si t'as de l'orgueil, sache que l'orgueil, c'est une cause pour entrer en enfer. T'as pas à avoir de l'orgueil envers ton époux. Tu vas vers lui. Tu l'embrasses la tête, la main, tu lui demandes pardon. Tu dis, je suis en tort. Je me corrige, aide-moi à me corriger. On s'entraide dans le bien, Inch'Allah, ça ne se reproduit plus. Honte à moi que je fasse ça devant les enfants. Ekada, ekada, ekada. Elle voit les enfants, elle leur dit, Inch'Allah, on est à la khair. On va se corriger avec le Coran, avec les sunnah. Et la paix, elle rentre dans ce foyer. La rahma, elle rentre dans ce foyer. Et les divorces diminueront, Inch'Allah. Ta'ala. Il n'y a pas plus de mal qu'avant dans les foyers. Mais il y a moins d'endurance qu'avant. Et on s'accuse plus les uns les autres que de s'accuser soi-même et de se remettre en question. Ça, c'est les grosses causes du divorce, de la grande, yani, du nombre de divorces qui augmente. Barakallahu fikum. Il y avait d'autres recommandations, mais je pense que on peut s'arrêter sur cela. Je répète, et j'insiste sur la chirurgie esthétique, craignez Allah Azza wa Jal, éloignez-vous de ce fléau, tout en précisant que la chirurgie réparatrice est permise. Il y a une maladie, il y a un accident, il y a telle ou telle chose, il y a une chose qui sort de l'ordinaire dans l'apparence de la femme totalement. Dans ce genre de cas-là, elle consulte une personne de science, elle peut avoir recours à la chirurgie réparatrice. À la chirurgie réparatrice. Et chacune sait qu'Allah la surveille et la voit. Elle ne doit pas tricher. Elle ne doit pas se tromper. Elle ne tromperait qu'elle-même. Elle ne tromperait qu'elle-même. Et subhanallah, la porte du sport n'est-elle pas ouverte? La porte de l'exercice n'est-elle pas ouverte? La porte du maquillage n'est-elle pas ouverte? La porte des vêtements et ainsi de suite. Naam. Wallahi, si elle demande à son mari des centaines d'euros et que c'est pour s'embellir pour lui, hein, il va lui donner. Alors que peut-être pour aller là-bas ou là-bas, peut-être qu'il est avare. Même l'avare, hein, si il sait que c'est pour son bien et le plaisir de ses yeux, il va lui donner l'argent. Donc, elle regarde les causes légiférées. Elle regarde les choses légiférées. Et pour finir un trésor, chère fille, chère sœur, chère mère, le prophète, vous voulez la beauté? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ امْرِئٍ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا. Qu'Allah illumine le visage de celui qui aura entendu ma parole, puis qu'il aura mémorisé et transmis comme il l'a entendu. وَصَلِ اللَّهُمَّ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها، أنت ولينا ومولانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de prier sur notre noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam, de nous pardonner nos fautes, de nous guider, de nous préserver dans nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos filles, et de vous préserver, de vous guider, de vous protéger contre toute calomnie, de préserver votre intégrité, votre religion, votre honneur, et de vous élever dans ce bas monde, de vous anoblir dans l'au-delà, et de vous faire entrer au paradis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alameen.